Je sais pas, vous m'entendez là, bien? Ou il faut que je prenne le micro? Parce que comme en plus il n'y a pas de support, c'est vraiment désagréable de porter le micro. Donc si vous m'entendez, et puis vous pouvez en plus vous approcher. Il y a de la place, donc. Il n'y a pas de support, c'est mal fichu pour ça. Parce que parce qu'il n'y en a pas, donc je suis obligée de le porter. Donc c'est un petit peu désagréable pendant une heure de porter un micro. Vous m'entendez mieux avec le micro? C'est bon, là on va peut-être commencer, hein, je pense. Ah non, il n'est pas tout à fait l'heure, donc attendons la nuit. Bon, on va peut-être commencer donc cette conférence sur Michel Foucault. Je vais commencer par situer très rapidement Michel Foucault dans le contexte philosophique des années 60 et 70. Michel Foucault peut être présenté comme le prototype de l'intellectuel critique de cette période. Je reprends le mot philosophe Alain Renaud. Il faut entendre ici critique dans une acception kantienne, bien entendu, puisque depuis Kant, une démarche est dite critique lorsqu'elle s'intéresse d'abord aux conditions de possibilité d'une connaissance avant de s'intéresser, ou bien plus que de s'intéresser, au contenu de connaissance, à la rationalité interne de cette connaissance. À cette orientation critique, donc, fait écho le concept tout à fait central d'épistémé dans la philosophie de Michel Foucault. Ce concept d'épistémé, Foucault le définit ainsi, je le cite, l'épistémé est le lieu où les connaissances envisagées hors de tout critère se référant à leur valeur rationnelle ou à leur forme objective enfoncent leur positivité et manifestent ainsi une histoire qui n'est pas celle de leur perfection croissante, mais plutôt celle de leur condition de possibilité. Citation donc des Mots et les choses, page 13. Foucault donc, je résume, s'attache aux conditions de possibilité du discours scientifique. Et ce sont ces conditions de possibilité du discours scientifique qui, pour lui, vont décrire des régularités discursives, des structures sous-jacentes, des configurations souterraines dans lesquelles s'inscrivent, dans un second temps, les discours scientifiques. Le travail de Foucault, Foucault le nomme lui-même archéologie, puisqu'il s'agit effectivement de mettre à nu un certain nombre d'idées qui masquent ces structures sous-jacentes, ces configurations souterraines que je viens d'évoquer. Et je le dis en passant très vite, on note bien entendu la très forte influence nietzschéenne à travers le concept de généalogie, volonté d'enquêter sur la genèse des idées, qui, euh, qui se fait jour ici. Mais bien entendu, je ne vais pas du tout développer cet aspect-là. Donc la démarche foucauldienne s'inscrit s'origine dans un a priori, selon lequel il faut mettre à jour ce que masquent les idées, il faut déconstruire des énoncés, il faut mettre à nu un inconscient de l'énoncé, ce que Foucault appelle un inconscient du savoir. Cette investigation critique passe donc au crible de la critique. La modernité, entendue ici comme cette représentation du monde qui s'impose entre la Renaissance et le XVIIIe siècle et qui va synthétiser humanisme, rationalisme et esprit des Lumières. Et ce faisant, cette démarche critique met, bien entendu, la modernité en crise. Je signale par parenthèse que crise et critique ont d'ailleurs la même étymologie grecque, krinei, qui veut dire décider, juger, discerner, séparer. Cette posture de Foucault n'est pas le seul, bien entendu, à adopter cette posture, hein, mais cette posture a pris nom communément de critique postmoderne, et ce mouvement dans son ensemble s'est baptisé postmodernité. Par conséquent, c'est dans ce cadre théorique d'une crise de la modernité que s'inscrivent à la fois l'histoire récente des représentations de l'enfant, de l'école, de l'éducation, et bien entendu la conceptualisation de l'éducation qu'en propose en filigrane Michel Foucault. Je dis en filigrane parce que... Je vais peut-être laisser les gens s'installer 2 secondes. Je dis qu'en propose en filigrane Michel Foucault parce que dans le livre où il parle le plus d'éducation, c'est-à-dire dans Surveiller et punir, ouvrage paru en 1975, Foucault s'intéresse aux micro-pouvoirs qui se développent dans les sociétés occidentales au XVIIIe siècle et dont, d'une certaine manière, la prison va constituer l'idéal type. Foucault n'aborde donc qu'à la marge la question de l'éducation scolaire. Et cette position, d'ailleurs, je le signale, est extrêmement paradoxale si l'on sait que depuis la parution de sa thèse « L'histoire de la folie à l'âge classique » en 1961 et jusqu'à la parution en 1976 du premier tome de « L'histoire de la sexualité » qui s'appelle « La volonté de savoir », Foucault a véritablement axé sa démarche sur la critique des institutions sociales qui s'articule sur les relations complexes entretenues par le pouvoir et le savoir. Et que tout laisse bien entendu à supposer que, s'agissant d'une recension des lieux de pouvoir où se mettent en œuvre des rapports de domination entre les individus sur fond d'enjeux de savoir, l'école et l'éducation scolaire jouent bien évidemment les premiers rôles. Mais pour comprendre comment la conceptualisation foucauldienne de l'éducation est aux prises avec ce jeu de déstabilisation qu'entretiennent modernité et postmodernité, il faut expliquer à la fois pourquoi l'idée d'éducation est le fer de lance de la modernité, peut être présentée en tout cas comme le fer de lance de la modernité, et comment la critique de la modernité occupe tout le champ de la critique foucauldienne. Alors, je donne tous ces éléments qui peuvent vous sembler un petit peu disparates, mais vous allez voir que en cours de conférence et surtout à la fin de la conférence, tout ça va s'agencer en principe comme une sorte de puzzle. Donc, deuxième temps après cette situation rapide de Michel Foucault dans les problématiques philosophiques des années 60-70, comment la modernité pose la question de l'éducation, travail de conceptualisation que Foucault va s'efforcer de déconstruire. Donc, 2 mots pour commencer sur l'idée de modernité. entre l'humanisme de la Renaissance et les Lumières du XVIIIe siècle, une nouvelle représentation du monde est substituée aux représentations des philosophies anciennes, des philosophies antiques, les représentations cosmogoniques. Il y a au sein de cette famille de penseurs que l'on appelle les modernes, énormément de dissensions. Ça n'est pas une famille si unie que cela, mais cette famille des modernes s'entend, il n'empêche, sur un certain nombre de fondamentaux, et la certitude des certitudes, le fondamental des fondamentaux, si je puis dire, c'est le sujet. L'humanisme propose, de ce point de vue, l'image, la figure d'un homme, et ça c'est quand même véritablement ce qui le fonde et ce qui le caractérise en différence des philosophies antiques, d'un homme architecte de son propre devenir, et introduit donc à la problématique de la subjectivité. Bien entendu, je présente tout ça parce que c'est précisément ce que Foucault va attaquer. La subjectivité relève dans l'histoire de la modernité d'une double capacité. Premier temps de la construction de la subjectivité, le moment cartésien. J'imagine que ce moment vous est resté en mémoire lorsque Descartes cherche à établir une certitude première, immédiate, à partir de laquelle vont s'élaborer toutes les autres certitudes. Le sujet s'impose, je doute de tout sauf du fait que je doute, etc. Je n'insiste pas sur cet élément, sur cette proposition qui évidemment mériterait à elle seule une conférence tout entière. Cette première capacité de la subjectivité, c'est ce que l'on appelle la capacité d'autoréflexion, évidence de la conscience de soi à soi, transparence à soi du sujet, à partir de laquelle, finalement je préfère qu'on ne mette pas de fraîcheur, pas autant de bruit en tout cas. Donc, certitude première à partir de laquelle vont s'élaborer les autres certitudes, à partir de laquelle le sujet va se saisir du monde, va comprendre le monde. Second temps de la construction de la subjectivité, ce que l'on appelle le moment critique. Avec Rousseau, Kant et Fichte, la question de l'homme s'énonce comme liberté, comme indétermination, comme arrachement à toute détermination naturelle, c'est-à-dire comme autonomie. L'autonomie, c'est bien la faculté de se gouverner selon ses propres lois. Autos en grec, soi-même, et nomos, la loi. Cette seconde capacité, capacité de fonder sa propre loi, est la capacité d'autofondation. L'autonomie est le concept absolument central de la modernité critique. Et c'est à partir de cette conception, de cette double conception, enfin de cette conception en deux temps de la subjectivité, que la modernité va donner une valeur anthropologique à l'éducation. Pourquoi une valeur anthropologique à l'éducation ? Eh bien, parce que, premièrement, l'homme commençant à se penser comme architecte de lui-même, comme architecte de son propre devenir, va ouvrir un vaste chantier de réflexion critique sur les formes que peuvent prendre cette élaboration de soi-même, encore appelée éducation. Deuxièmement, parce qu'il convient d'armer cette subjectivité certaine de son accès au monde. Je cite ici Descartes, « Le but des études doit être de diriger l'esprit pour qu'il porte des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente à lui. » De définition, bien entendu, d'une fin possible de l'éducation que Descartes propose dans la règle 1 des règles pour la direction de l'esprit. Et troisièmement, parce que la réalisation de la liberté inaliénable comme arrachement à toute détermination naturelle suppose, comme Kant va le dire dans une formule restée célèbre, que l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Et selon une formule non moins célèbre de Rousseau, que l'éducation consiste à apprendre à devenir son propre maître. C'est donc parce que l'enfant n'est naturellement rien qu'il doit être éduqué, autrement dit, parce qu'il est libre qu'il doit être éduqué. Et c'est pourquoi, à partir du XVIe siècle, effectivement, on voit se développer en Occident, en particulier dans les milieux lettrés, l'idée qu'il y a un moment spécifique où l'éducation, en quelque sorte, se saisit de l'enfant, doit se saisir de l'enfant. Éducation comme acte séparé, réfléchi, objectivé, méthodique. Et cette pensée de l'éducation, à partir du XIXe siècle, va s'ordonner peu à peu autour de cette idée devenue absolument centrale que l'éducation consiste à conduire à un gouvernement de soi. L'éducation se présente bien, deuxième temps de ce deuxième paragraphe de ce deuxième temps, comme une intériorisation de la norme. Ceux qui connaissent un peu Michel Foucault, j'imagine, commencent à voir où je veux en venir. Se gouverner soi-même, fonder par soi-même sa propre loi, suppose donc d'avoir mis à distance toute hétéronomie, c'est-à-dire tout assujettissement à une norme extérieure. Hétéronomie de hétéros, autre, nomos, comme toujours la loi. L'hétéronomie, la loi de l'autre. Le christianisme, en accordant une place importante au fort intérieur, à la délibération intérieure, a, d'une certaine manière, ouvert le chemin. Mais c'est par la voie de Kant que la modernité en appelle à agir selon le fondement d'un devoir qui relève de la stricte législation intérieure. Pour être libre, la volonté ne doit obéir qu'à une instance intérieure. Toute référence à une instance extérieure, bien entendu, l'inscrirait dans une logique de détermination et par laquelle la liberté se nierait elle-même. Cette loi intérieure, universelle, c'est la loi de la raison, partagée par tous, mais qui suppose en quelque sorte d'être activé en chacun. Parce que si l'enfant est libre et raisonnable en ce qu'il est un homme, ce que d'ailleurs John Locke va développer, cette liberté, au même titre que la raison qui la fonde, elle doit être, elle n'est que potentialité, elle doit être actualisée. Présence-absence du couple liberté-raison, qui définit à la fois l'enfant comme différence, concept important pour Foucault, comme différence et comme dépendance. Définit l'enfant dans une différence et dans une dépendance éducative. En somme, pour les modernes, l'enfant né libre et doué de raison, mais incapable d'en user pleinement, doit nécessairement être éduqué pour être libre. Et c'est ainsi que prend place l'autorité éducative, la contrainte éducative, qui est présenté d'emblée comme un moyen dont la fin est la liberté. Et c'est également pourquoi cette éducation doit amener l'enfant à savoir-pouvoir se conduire. Et il est tout à fait, c'est donc bien une éducation morale, dans l'acception vraiment pleine et entière du terme. Et il est tout à fait significatif que Henri Marion, un des pères fondateurs de l'école ferriste, un des collaborateurs de Jules Ferry, qui participe au dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, qui est véritablement la Bible de l'école de Jules Ferry. Donc Henri Marion rédige l'article pédagogie, qui est évidemment un article tout à fait central de ce dictionnaire, un dictionnaire qui fait je ne sais plus combien de milliers de pages. Et dans cette rédaction de l'article pédagogie, Marion écrit « Dans l'objet total de la pédagogie, l'éducation morale prime tout le reste. » Alors, à partir de là, c'est le troisième temps de cette intervention, va évidemment s'embrayer la critique foucauldienne qui va d'abord s'attacher à dénoncer une éducation proprement répressive. Foucault inverse la lecture de ce qui fait signe généralement pour nous contemporains de la reconnaissance de l'enfant en faisant coïncider cette reconnaissance avec la violence scolaire avec laquelle, de fait, elle cohabite. Effectivement, ce n'est pas la moindre des contradictions de constater que, au moment même où ce sentiment de l'enfance, accompagné en général d'un sentiment pour l'enfant, se déploie, au moment même où se déploie ce sentiment de l'enfance, se déploie de manière concomitante un schéma éducatif dans la famille et dans l'école qui est véritablement centré sur le châtiment corporel. Pour nous en tenir à l'éducation scolaire, puisque c'est la seule j'ai dit qu'il avait travaillé sur l'éducation scolaire à la marge, et plus encore à la marge sur l'éducation familiale. Donc pour nous en tenir à l'éducation scolaire sur laquelle néanmoins Foucault s'est penché, très nombreux sont les témoignages de cette extraordinaire violence de l'école depuis, je pense aux témoignages d'Horace au 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à ceux de Jules Vallès au 19e siècle, et Montaigne, pourtant peu suspect d'être d'une empathie avec les enfants, parce que vraiment l'enfance inspire peu de compassion à Montaigne. Montaigne dénonce néanmoins une école qui n'est que horreur et cruauté. Les coups résistent bien et très longtemps dans l'école occidentale et notamment dans l'école française jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors je voudrais vous donner un témoignage parmi tant d'autres, ce témoignage du romancier Henri Poulaille, paru dans l'Éducateur culturel en 1954. Henri Poulaille se remémore avec beaucoup d'émotion de son instituteur, un instituteur particulièrement attachant auquel il dit devoir beaucoup, et il rapporte « Il me chouchouta, quand je dis chouchouter, je sous-entends guider, suivi, quelquefois houspillé et souvent giflé. » Une enseignante, même chose, témoigne des pratiques encore en cours dans les années 50, alors vous voyez qu'on est passé de la violence physique à la violence verbale. Au cours de ma scolarité primaire, les humiliations étaient fréquentes, menaces de retourner à la maternelle avec les petits. Je signale que j'ai entendu ça très récemment. Mise au cachot, mise au piquet avec le bonnet d'âne, exposition qui se doublait du défilé des autres élèves, dont le devoir était de lui faire honte, tour de cour infligé aux pauvres victimes dans un accoutrement vestimentaire ridicule sous les quolibets des bons élèves. Hein, c'est René Goupil qui témoigne de ça dans Le mouvement Freinet au quotidien. Toutefois, dans ce continuum de la violence scolaire, Foucault, dans Surveiller et punir, interprète l'âge classique comme le temps d'un renforcement de la politique répressive à l'endroit de l'enfant. Et ce renforcement est corrélé pour lui au principe même de la modernité éducative. En somme, l'école participe à ce grand mouvement de renfermement classique caractéristique de la manière de traiter les fous, de traiter les pauvres, de traiter les délinquants. Et Foucault trouve d'ailleurs sur cette thématique un allié assez inattendu en Philippe Ariès, pour qui la reconnaissance de l'enfant et son corollaire qui est la désignation, la distinction d'une différence enfantine coïncide avec un isolement systématique de l'enfant saisi par l'éducation. Je voudrais vous citer ce passage de Philippe Ariès, donc de L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, ouvrage paru en 1960. Ariès parle d'un long processus d'enfermement des enfants comme des fous, des pauvres et des prostituées qui ne cessera plus de s'étendre jusqu'à nos jours et qu'on appelle la scolarisation. En fait, cette position commune de Foucault, gauche radicale, et d'Ariès, droite radicale, n'est pas si étonnante, si surprenante que cela. Foucault, parce que l'humanisme moderne a promis une émancipation qui, en réalité, et Foucault va le dire très fortement, est un assujettissement, et Ariès, parce que nostalgique des valeurs communautaires des sociétés scolastiques, des valeurs communautaires et très, très fortement hiérarchiques des sociétés hiérarchiques, condamne, comme Foucault, un humanisme éducatif qu'il fait coïncider avec la répression moderne de l'enfant. Michel Foucault voit dans la scolarisation qui se développe à partir du XVIIe siècle les mêmes techniques de redressement et de dressement du corps que l'on retrouve dans le système hospitalier et dans l'armée. Et ces techniques de dressement se reposent pour Foucault sur deux piliers. Premier pilier, l'enfermement, un principe de clôture qui s'applique à toute l'éducation scolaire depuis les rudiments jusqu'à l'université. Foucault va d'ailleurs citer les deux instances institutionnelles qui vont être extraordinairement porteuses d'héritage pour nous, puisqu'il s'agit de l'école des frères des écoles chrétiennes fondée par Jean-Baptiste de La Salle en 1604, enfin dans les années 1680, et qui seront les ancêtres à bien des égards de l'école communale, et le collège jésuite, fondé au XVIe siècle, qui à bien des égards sera lui l'ancêtre du lycée. Dans les écoles chrétiennes, dans les écoles des frères des écoles chrétiennes, éducation nouvellement populaire, gratuite, urbaine, effectivement, les enfants sont regroupés dans un lieu ad hoc. Et c'est la première fois pour l'école des rudiments. Jusqu'alors, on enseigne la lecture et parfois l'écriture dans une grange, un presbytère, un lieu abandonné, un lieu disponible, etc. Là, véritablement, on peut parler d'école. Et d'ailleurs, ce lieu est consacré, les enfants sont supposés faire silence avant même de pénétrer dans le lieu. Quant au collège jésuite, dont, comme je le disais tout à l'heure, le paradigme tend à s'imposer, et notamment à travers la formidable réputation du collège Henri IV de La Flèche, où d'ailleurs Descartes fut interne, et bien sûr du collège de Clermont à Paris, qui est l'ancêtre du futur lycée Louis-le-Grand, que j'imagine vous connaissez tous, ce collège jésuite fait de la sanctuarisation de l'espace éducatif le moyen d'une protection de l'enfant, le moyen d'une préservation de l'enfance, de la corruption du monde extérieur. Et pour être parfaitement efficace, autant protéger totalement l'enfant, c'est-à-dire autant institutionnaliser l'internat, ce que d'ailleurs le collège jésuite va faire, et l'internat connaîtra un succès grandissant et très important jusqu'au moins la fin du XIXe siècle. Ces internats qui sont pourtant d'une extrême sévérité et dont Montaigne, toujours si peu pourtant enclin à la compassion, que Montaigne appellera grave geôle de jeunesse captive. Encore faut-il ajouter qu'à cette réclusion des élèves, se profile progressivement, d'abord dans les collèges, mais ce sera importé dans les frères des écoles chrétiennes, une réclusion des enfants par ségrégation d'âge. S'impose à ce moment-là une organisation du temps scolaire qui va croiser cursus, périodisation, principe de la classe le résultat de cette organisation du temps scolaire va être que les enfants ne pourront plus ou pourront très difficilement communiquer entre eux, enfin de classe à classe. Alors ça, c'était le premier pilier, selon Foucault, de cette éducation répressive. Le second pilier, bien entendu, c'est le régime des sanctions. Je passerai un peu plus vite. Il est tout de même significatif que la conduite des écoles chrétiennes de 1720, qui donc est la règle commune de ces écoles des frères que je décrivais tout à l'heure, la conduite des écoles chrétiennes décrive durant 40 pages, qui est quand même extraordinairement long, les régimes de correction qui s'appliquent, qui sont exécutés selon un certain, euh, un certain ordre, une certaine méthode avec des instruments consacrés, etc., de manière rituelle. Tout ceci est extrêmement précis. La férule, par exemple, encore appelée palette, elle punit les retards. C'est un morceau de bois avec lequel on frappe l'enfant. Elle punit les retards, elle punit les inattentions, alors que les verges punissent le refus d'obtempérer, les manquements à la discipline, et en particulier l'irrespect de la discipline pendant la messe, le catéchisme, la prière. Si un enfant pleure dans l'école des frères, par exemple, la punition est systématiquement doublée. Hein, c'est dire, même s'il se plaint d'ailleurs, c'est dire si le régime est vraiment sévère. La ratio studiorum des jésuites est plus amène d'une certaine manière, puisqu'elle réserve le châtiment corporel en principe à des moments extrêmes, mais dans la réalité, les mœurs étant ce qu'elles sont à l'époque, en réalité, le châtiment corporel est utilisé bien au-delà de la règle. Donc Foucault, évidemment, va conclure que bien loin de se traduire par une reconnaissance de la dignité de l'enfant, le sentiment de l'enfance est donc bien davantage une identification de l'enfance comme sauvagerie qu'il convient de traiter. Et c'est d'ailleurs ce que l'on peut relever d'une certaine manière chez Kant, puisque Kant va écrire « L'homme n'a point d'instinct et doit donc se fixer lui-même le plan de sa conduite », c'est l'autonomie, « c'est la discipline qui transforme l'animalité en humanité et qui permet de sortir de la sauvagerie, réflexion sur l'éducation, page 70. » Quatrième point de mon cours exposé, régression de la violence scolaire et normalisation. Alors, cette violence scolaire, elle est effectivement décrite comme je viens de le faire, mais il n'empêche que dans un contexte humaniste de conceptualisation d'un droit pacificateur qui se substitue progressivement à la violence, la condamnation du châtiment corporel finit par s'imposer. Et premier moment de cette démonstration, la pédoplégie, c'est-à-dire la pédagogie par les coups, la pédoplégie régresse effectivement, même si l'usage de la palette reste, comme dit Balzac, l'ultima ratio patrum, c'est-à-dire l'ultime argument des pères, il n'empêche que, et ça n'est pas rien, le lycée napoléonien de 1802 interdit le châtiment corporel. En 1803, l'ensemble de l'enseignement secondaire se voit interdit de châtiment corporel, interdiction que renouvelle le statut des écoles de 1809, de 1811, le statut des écoles primaires de 1834, l'arrêté Victor Cousin de 1840, le règlement des salles d'asile de 1855, je rappelle que les salles d'asile sont les ancêtres de l'école maternelle, le règlement scolaire de 1882, donc celui des lois Ferry, rappelle encore qu'il est absolument interdit d'infliger aucun châtiment corporel, et plus encore l'arrêté de 1890 qui étend à l'ensemble du système éducatif les interdits de 1803. Et qui stipule que les punitions auront toujours, je cite, un caractère moral et réparateur. Alors, notez bien, le piquet, les pensums, c'est-à-dire les punitions, hein, les punitions, on écrit 20 fois, etc., la même phrase. Le piquet, les pensums, les privations de récréation, la retenue de promenade sont formellement interdits, 1890. Pensez si aujourd'hui cet interdit fonctionne dans les écoles. Sans doute le caractère itératif de l'injonction souligne-t-il la difficulté, bien sûr, à mettre en œuvre cet interdit. Et du reste, une circulaire de 2000, donc vraiment extrêmement récente, s'exprime encore sur ce sujet et redit encore. Il n'est toutefois pas contestable qu'on assiste à un assouplissement du régime de la contrainte et véritablement à un tournant dans la manière de faire avec les enfants. Deuxième point de cette argumentation, la scolarisation comme dynamique d'assujettissement. Alors cette régression de la pédoplégie aurait pu mettre en difficulté l'argumentaire foucauldien qui semblait dans un premier temps tout à fait auto-centré sur la dimension répressive de l'éducation. Bien sûr, il n'en est rien. Foucault, au contraire, va inverser la perspective critique et va affirmer qu'il y a bien, certes, régression de la violence, mais cette régression, loin d'être le signe d'une reconnaissance de la dignité de l'enfant, d'une reconnaissance de sa libération, par parenthèse, c'est la thèse d'Alain Renaud dans La libération de l'enfant, cette régression de la violence scolaire est au contraire à interpréter comme la marque d'une normalisation de l'enfant, autrement plus sophistiquée et donc autrement plus efficace, consistant à normaliser l'enfant à l'intérieur de l'intérieur. Vous voyez donc, enfin vous comprenez donc, je pense, pourquoi je vous ai expliqué tous ces préceptes et principes de la modernité et la théorie de l'autonomie, le concept d'autonomie. C'est donc bien ici, très précisément, le concept d'autonomie qui est visé par Foucault. La loi morale en moi, comme dit Kant, dans la critique de la raison pratique. Concept d'autonomie qui est au centre de l'anthropologie des modernes et qui est présenté par Foucault, non pas comme l'achèvement d'un long processus d'émancipation, mais au contraire comme l'achèvement d'un long processus de normalisation que le travail généalogique va mettre à nu. Parce que, en effet, tout pouvoir est d'autant plus efficace pour Foucault qu'il est invisible. L'autonomie rousseauiste ou kantienne, qui sont elles parfaitement invisibles, doit être réinterprétée comme l'aboutissement absolument exemplaire d'une histoire qui n'est, encore une fois, pas celle de l'émancipation, mais qui est bien celle de l'assujettissement. À partir de là, Foucault va redisposer sa microphysique des pouvoirs. À la rigueur du châtiment corporel, se substitue pour Foucault une nouvelle économie éducative qui repose sur la double logique de contrôle et d'autocontrôle, très conforme aux représentations modernes. Est donc explicitement recherché, selon les perspectives du plan Langevin-Wallon, plan dont je vous rappelle qu'il a été la référence à gauche pratiquement jusqu'à nos jours, bien qu'il ne fût jamais appliqué, est donc explicitement recherché, et Langevin-Wallon le revendique comme ça, la soumission volontaire à une règle acceptée, en même temps, je cite le plan là, en même temps qu'un contrôle psychologique répondant à la nécessité de connaître l'enfant dans ses particularités individuelles aussi bien que dans son évolution psychologique. Et du reste, le plan Langevin-Wallon va être à l'origine de la création d'un corps de psychologues dans les écoles. Le dispositif, pour Foucault, articule de presque au grand jour, hein, c'est là où on est en écart avec, d'une certaine manière, sa théorie de l'invisibilité, le dispositif articule presque au grand jour technique de pouvoir et procédure de savoir. Et l'arme de cette nouvelle normalisation, c'est l'autorité, dont le petit Robert, hein, je me suis rapporté à la définition vraiment très commune, nous dit qu'elle est, je cite, « une supériorité de mérite ou de séduction qui impose l'obéissance sans contrainte, le respect, la confiance ». La modernité fait donc de l'autorité la forme absolument nécessaire d'un pouvoir devenu véritablement invisible, fonctionnellement invisible. En tant que figure intériorisée de la contrainte, l'autorité de l'école et l'autorité du maître incarne, de ce point de vue pour Foucault, l'idéal moderne de la contrainte normative. Donc là, on voit bien que s'oppose à un élève qu'on pourrait dire préhumaniste, hein, un élève scolastique qui serait, qui aurait vocation à être conduit, hein, selon un schéma d'orthoformation, un élève moderne qui, bien entendu, a vocation à se conduire. dans cette économie nouvelle, la sanction demeure, bien sûr, mais elle est contenue. Elle est minorée autant que possible. Et pour conclure ce paragraphe sur l'autorité, je voudrais citer le sociologue Émile Durkheim, qui écrit dans Éducation et sociologie, et qui, écrivant cela, reprend vraiment résume la conviction unanime des modernes sur l'autorité. Il écrit « La liberté est fille de l'autorité, bien entendu, car être libre, ce n'est pas faire ce qui plaît, c'est être maître de soi. C'est savoir agir par raison et faire son devoir. Or, c'est justement à doter l'enfant de cette maîtrise de soi que l'autorité du maître doit être employée. » Donc, cette autorité, hein, qui devient absolument centrale dans une perspective normalisatrice, elle s'exerce, pour finir ce paragraphe, dans un espace scolaire structuré de telle sorte que puisse d'ailleurs s'exercer partout la surveillance. Surveillance des élèves par les maîtres et surveillance des maîtres entre eux. Les salles de classe sont, dès l'école des frères, et resteront toujours vitrées, de manière à ce qu'on puisse s'auto-surveiller en permanence. Donc punir moins, mais punir mieux, comme dit Foucault, et surtout contrôler, se contrôler. Alors, troisième temps, et j'en arrive presque seulement au titre de cette conférence, mais je pense que vous allez comprendre comment tous ces éléments se redisposent. L'administration des corps dociles. Et docile, dit Foucault, un corps qui peut être soumis, qui peut être utilisé, qui peut être transformé et perfectionné. C'est bien sur le corps que s'exerce cette autorité moderne, sur le corps donc subtilisé à la punition, mais exposé à la production, à la discipline du travail, qui ne consiste, comme dit Kant, qu'à dompter la sauvagerie. Toujours réflexion sur l'éducation. Cette discipline du travail, c'est l'exercice qui en est le moyen. L'exercice dont Foucault dit que c'est la seule cérémonie qui importe vraiment. Alors, l'exercice renoue avec une ancienne pratique grecque, l'askésis, que décrit le philosophe Pierre Hadot, spécialiste de la philosophie antique, comme pratique volontaire personnelle destinée à opérer une transformation du moi. Cet entraînement spécifique de l'élève prétend à la transformation de l'intime de l'individu, pour bien entendu la construction du sujet. En permettant au principe de l'exercice d'être assimilé, de pénétrer à l'intérieur, jusqu'à transformer l'enfant, la pratique scolaire crée en lui une capacité nouvelle, une disposition nouvelle. Et je fais le même parallèle que tout à l'heure, mais cette fois-ci pas avec Henri Marion, mais avec Félix Pecaud, autre père fondateur de l'école fériste et autre collaborateur au dictionnaire de Ferdinand Buisson. Félix Pecaud va rédiger, lui, l'article « Exercice scolaire ». Et il le dit tout à fait explicitement. Je le cite. « Hier, l'exercice organisé, conçu comme une pratique extérieure et presque machinale, visait surtout à façonner l'homme du dehors, si l'on peut parler ainsi, plutôt que de le construire du dedans, et avec son propre concours de plus en plus actif. Au contraire, aujourd'hui, l'exercice sera le moins mécanique possible. Il mettra en jeu l'initiative de l'élève. » Donc, cette construction du dedans, elle individualise, elle singularise, elle distingue chacun. La pratique de l'exercice prend d'ailleurs très rapidement pour objet le développement même du corps. Elle s'applique de toute façon toujours au corps. Mais, comme on vient de le voir, mais elle prend pour objet le développement du corps. Dès le XVIIIe siècle, Michel Lepelletier propose dans son plan d'études son plan d'études nationales de 1793 de, je cite, « donner au corps tout le développement et toutes les facultés dont il est susceptible », ici encore, sur ce plan-là, on voit bien reculer la contrainte extérieure sur le corps. Dans « Le corps redressé, histoire d'un pouvoir pédagogique », Georges Vigarello, qui est un spécialiste de l'histoire des représentations du corps et des pratiques du corps, va écrire qu'à partir du XVIIIe siècle, la préoccupation pédagogique concernant le corps devient dominante et que régressent les maillots, je cite, les corsets. Les maillots, les corsets apparaissent brutalement comme des procédés quasi-barbares au service de manipulations lourdes et sans nuance. Donc désormais, au corps est également appliquée une nouvelle économie éducative. Cette nouvelle économie éducative passe par l'hygiène qui va s'attacher à rendre le corps disponible et par l'exercice qui va s'attacher à le développer et à le rendre habile. Bien sûr, ce double traitement du corps par hygiène et exercice s'inscrivent dans une nouvelle culture du travail qui est aussi celle, je suis toujours dans une perspective foucaldienne, qui est aussi celle que proposent les révolutions industrielles. Dans l'ouvrage que Pauline Kergomar, qui est la fondatrice en 1880 de l'école maternelle, va écrire pour, en direction des directrices d'école maternelle, donc ouvrage qu'elle fait paraître en 1886, Pauline Kergomar insiste sur la réversibilité de l'hygiène morale et physique. Le propre au dehors est en quelque sorte le témoignage d'un propre au dedans. Et d'ailleurs, une nouvelle propreté, en quelque sorte objective ce point de vue, c'est la propreté absolument intérieure du corps aseptisé, du corps désinfecté. Hygiène idéalement invisible, si je puis dire, qu'institue d'une certaine manière la révolution pasteurienne. Par conséquent, l'injonction scolaire se défie d'une propreté ancienne, moyenâgeuse, selon la norme médiévale, qui était la propreté des seules parties visibles du corps. Il ne suffit plus d'avoir le visage et les mains propres, mais elle se défie tout autant d'une norme classique qui était celle du linge propre, ce que Vigarello appelle la propreté sèche, la propreté du linge blanc, le renouvellement des linges. Maintenant, dit l'école, à travers la voix de Pauline Kergomar, l'école, maintenant, doit exiger une hygiène qui aura pour fonction de contrôler l'intime, de contrôler l'invisible. Et ces préoccupations renvoient par un double isomorphisme à la maîtrise du corps et à l'idée d'une propreté morale. Car, je cite Pauline Kergomar, « la propreté est une question de dignité ». Voilà pour l'hygiène. Je vais terminer maintenant cette conférence avec, en traitant dans un dernier temps la question de l'exercice. Il est généralement admis que l'introduction de la gymnastique comme discipline obligatoire dans les écoles et dans les lycées qui est introduit en 1880, en 1882, est liée à la défaite de la France devant l'Allemagne de 1870, enfin devant la Prusse plus exactement, de 1870, défaite qui a conduit les contemporains à s'interroger sur l'efficacité déjà du système éducatif français, de l'école française. On n'est pas encore dans le cadre d'un système éducatif, de l'école française. On a dit à cette époque, c'est l'instituteur allemand qui a remporté la victoire. Nonobstant, rien n'aurait été possible si nous n'avions pas eu une nouvelle, nous n'avions pas été dans une configuration idéologique d'une représentation du corps qui a quand même considérablement changé depuis la Renaissance. Cette représentation du corps, c'est celle d'un corps en mouvement, qui est encouragé bien sûr par la conception cartésienne du corps-machine. corps-machine qui se met d'ailleurs en mouvement dans l'espace homogène et géométrique cartésien, espace qui assigne à ce corps une logique géométrique. En sorte qu'à l'immobilité de la posture adéquate qui est prônée par les manuels de civilité, du savoir-vivre, bien se tenir, à cette immobilité progressivement substituer une nouvelle économie du mouvement. En rupture, cette nouvelle économie du mouvement avec les exercices gymnastiques valorisés par la païdéia grecque, puisque l'éducation grecque prônait, c'est vrai, un exercice gymnastique, mais qui était référé à un idéal de beauté et d'harmonie en relation avec la cosmogonie grecque. Le ciel d'Aristote n'est plus, cet idéal d'harmonie n'est plus non plus. Mais rupture aussi avec l'autre instance d'éducation du corps, qui est l'instance militaire. L'éducation militaire visait traditionnellement la maîtrise d'un geste global dans l'exercice militaire répétitif dans le cadre de l'entraînement, exercice global, minuté, etc. Au contraire, l'exercice spécifique de l'éducation physique devient une décomposition analytique du geste, une décomposition analytique du mouvement, une élémentarisation du mouvement. Et cette élémentarisation ordonnée et abstraite du micro-geste vise bien la transformation réglée de chaque partie du corps et de chaque aptitude corporelle dans une perspective productiviste qui, bien entendu, que Foucault a à l'esprit. Une telle fragmentation du mouvement sera convertible en tâches simples et répétitives, scientifiquement optimisées, on peut dire, qui seront rentabilisées sur les chaînes de montage de la grande industrie. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a pas là, on ne peut absolument pas dire, et Foucault ne dit pas du tout que ce soit la gymnastique qui ait rendu possible le taylorisme. En revanche, ce qui est dit là et qui illustre parfaitement la méthode foucauldienne, c'est que la gymnastique et le taylorisme relèvent du même substrat, une représentation analytique du geste au service de l'assujettissement du corps docile. Et cette éducation du corps comme exercice d'élémentarisation méticuleuse du mouvement, si je puis dire, cette éducation du corps au service toujours du contrôle du corps et de l'autocontrôle du corps va participer, comme vous le savez, de plein pied à l'école moderne et ne va cesser de gagner du terrain, de consolider sa légitimité à tous les échelons de la vie scolaire. Alors, je voudrais conclure sur deux remarques. Première remarque, par rapport à ce qui a été dit au début, en introduction, de la démarche foucauldienne comme archéologie, c'est-à-dire comme examen, je le rappelle, des variations dans le temps des configurations discursives et scientifiques, comme examen des variations de ce qu'il est possible pour une époque de pensée, par rapport à cette démarche archéologique, on assiste bien ici à une transformation d'un mode d'assujettissement à un autre, transformation dont l'école est une actrice essentielle. Nous passons bien, en effet, d'une forme hétéronomique d'assujettissement essentiellement par contrainte violente à une forme nouvelle d'assujettissement par normalisation. À cette évolution correspond, pour nombre de penseurs de la postmodernité, dont Gilles Deleuze, bien sûr, autre grand philosophe de l'époque, une évolution vers des sociétés de contrôle. Deuxième remarque. On voit qu'un tel parti pris interprétatif que j'ai ici appliqué à l'école moderne, dont vous pouvez imaginer, vous pouvez repérer, je pense, l'héritage dans notre école contemporaine si soucieuse de maîtrise, d'évaluation et d'individualisation, ce parti pris interprétatif foucauldien ne reconnaît en réalité aucune place à l'éducation. L'éducation, à la différence du dressage, supposerait en effet que l'éduqué sache à chaque instant pourquoi il apprend, ce qu'il apprend et à quelle fin il apprend. A contrario, le dressé, lui, ne sait ni pourquoi il apprend, ni ce qu'il apprend, et moins encore ce qui est visé, bien entendu, par les apprentissages. Dans l'optique foucaldienne, l'éducation moderne sombre dans le dressage, puisque dans le secret de son objectif et dans le secret de son principe, qui est d'ailleurs le gage de son efficace, elle se fait de bout en bout à l'insu de celui auquel elle s'adresse et qu'elle manipule. C'est véritablement une domination sans sujet. Vertigineuse des illusions, si l'on se souvient que l'éducation des modernes, centrée sur le concept d'autonomie, se donnait justement pour fin d'être une alternative au dressage. Je cite Kant : on dresse des chiens, des chevaux, on peut aussi dresser des hommes, mais parce qu'il importe avant tout que les enfants apprennent à penser, l'enfant ne saurait être simplement dressé, dirigé mécaniquement, instruit, mais réellement éclairé. Dit Kant dans Les Réflexions sur l'éducation, page 83. Ne perdons pas tout de même de vue que, en toute rigueur, cette lecture foucauldienne ne s'inscrit pas dans un discours de vérité, puisque Foucault le récuse, le discours de vérité, que le sens de cette lecture s'inscrit nécessairement, par hypothèse, dans une herméneutique, puisque selon le mot de Nietzsche qui a tellement inspiré Foucault, il n'y a pas de fait, rien que des représentations. Reste donc maintenant à défaire tout ce que je viens de faire, à détricoter tout ce que je viens de dire, finalement, autre façon de le dire, reste à interpréter Foucault. Voilà, je vous remercie. Alors, il reste une dizaine de minutes pendant lesquelles on peut bien entendu débattre. Un micro va circuler dans la salle.
Merci. Ma question va peut-être vous prendre au dépourvu parce qu'elle porte sur une décision tellement récente que je ne sais pas si vous aurez eu le temps d'y réfléchir en tant que familière de la pensée de Michel Foucault. Mais je la pose quand même. Que pensez-vous de la décision, je crois que les médias en ont fait état au début de la semaine, de la rémunération, entre guillemets, je ne sais pas si les médias sont bien, rapportent bien ce qui est en observation, j'arrive pas à trouver le mot, enfin ce qui est une expérimentation, la rémunération des élèves pour qu'ils ne soient plus absents ou pour qu'ils soient moins absents. Je crois que c'est expérimenté dans 3 lycées. Il y en a un dans la région parisienne. Alors, je crois qu'on se défend du mot rémunération. Ce serait une somme d'argent attribuée pour un voyage scolaire. J'ai vaguement entendu parler de permis de conduire, je ne sais pas, de cours de conduite. Je ne sais pas si c'est exact ou pas. Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus ? Est-ce que ça s'inscrit dans la démarche archéologique, si j'ai bien compris ce que vous avez dit là-dessus ?
Alors, je voudrais préciser, je ne me suis pas peut-être pas très suffisamment explicitement positionnée. Tout ce que je viens de dire, il ne s'agit pas du tout de ce que je pense. Je suis personnellement, du reste, si je dois vous faire une confidence, absolument anti-foucaldienne. Je m'intéresse à la pensée de Michel Foucault, qui pour moi est un penseur tout à fait essentiel, dont d'ailleurs j'ai eu la chance pendant plusieurs années de suivre les cours. Mais je ne défends pas ça. Je vous ai exposé, je pense le plus honnêtement que je pouvais le faire, la pensée de Foucault. Alors, maintenant, donc c'est pas ce que je pense, mais ce que je pense, Foucault aurait pu dire d'une chose pareille. Alors, si s'agissant d'une... Bon, j'ai pas de plus de renseignements que vous sur... ça me semble très flou et à vrai dire assez excentrique, mais... Alors, il y a deux choses différentes. Ce que Foucault aurait dit de type d'intervention, de mise en place dans les écoles, comme le permis à points, etc., etc., là, je pense que Foucault... locaux auraient vu là une espèce de transgression de la logique, de la dynamique moderne, dans la mesure où le permis à points, comme toute automatisation de la punition, ne s'inscrit pas dans une intériorisation de la loi et dans une logique d'autonomie, mais véritablement dans une autre logique de contention, dans une autre économie éducative, aurait dit Foucault, qui est une économie archaïque, qui est effectivement une économie de ce que j'ai d'abord décrit, de l'ordre de la contrainte et de la contrainte hétéronomique. On est vraiment dans une logique hétéronomique. En revanche, la rémunération de la ponctualité, si je puis dire, pour les élèves, s'inscrirait, elle, dans une dynamique moderne, dans la mesure où, effectivement, serait appelé à l'enfant et serait, bien entendu, récompenser, rémunérer l'idée d'une responsabilisation de l'enfant. Toute idée de responsabilisation, vous voyez comme Foucault est quand même un penseur extrêmement radical, toute responsabilité, responsabilisation s'inscrit dans une perspective de normalisation. Donc là, il y aurait bien, dans une perspective foucaldienne, il me semble, une opposition entre, il interpréterait de manière antinomique le permis à points d'un côté et la rémunération de la ponctualité de l'autre. Voilà ce que je peux dire sur Foucault.
Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Foucault, ça veut dire que Foucault, au-delà d'un archéologue, est aussi un juge, propose des solutions.
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je pense que si les rendez-vous de l'histoire m'invitent une année ultérieure pour défaire tout ce que je viens de faire, j'aurai grand plaisir à le faire. C'est-à-dire que la pensée foucaldienne peut être à son tour déconstruite. Elle peut être déconstruite, je dirais, par principe, puisque Foucault, de toute façon, refuse le discours de vérité. Pour Foucault, tout est d'ordre interprétatif, comme pour Nietzsche, qui est son maître en l'occurrence. Donc, l'interprétation foucaldienne peut être défaite. C'est toujours le même problème des antimodernes qui mettent en cause un discours qui va... qui, à la différence du discours cartésien, lui doute de tout, mais y compris du fait qu'il doute, parce que la position antimoderne, elle est là, elle est dans une suspicion généralisée des critères de vérité. Descartes dit, du néant universel du doute, surgit la certitude du cogito. Le moderne dit surgit aucune certitude, du néant universel de la suspicion surgit aucune certitude. C'est ce que Paul Ricoeur, autre philosophe célèbre de cette époque, a appelé l'ère du soupçon. À soupçonner tout, on se soupçonne soi-même. Le discours de Foucault est tout aussi soupçonnable ou suspect que les discours que Foucault va dénoncer. C'est la raison pour laquelle ça peut être assez amusant et instructif de déconstruire ce que Foucault a construit. Mais il n'empêche que la pensée de Michel Foucault est une pensée remarquablement forte. Enfin, vraiment, Foucault est un penseur d'une puissance étonnante. Et je vous invite à le lire. C'est pas parce qu'il est discutable qu'il est... Il en est plus faible. Au contraire, je dirais même, c'est parce qu'il est discutable que peut-être il en est d'autant plus fort. Parce que la richesse de sa démarche, elle est d'une très grande souplesse. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que presque tout ce que je vous ai dit ce matin, je ne l'ai pas trouvé tel quel dans Foucault, puisqu'il a très peu parlé de l'éducation. Si, je me suis bien sûr appuyée sur un certain nombre de propositions qu'il développait rapidement dans Surveiller et punir, et quelquefois dans Dit et écrit, les quatre volumes qui sont parus bien après sa mort chez Gallimard. Mais c'est pas la pensée de Foucault, elle va très au-delà des sujets qu'il a traités.
Alors une question puisque, si j'ai bien suivi ton intervention, le dressage aurait dû être remplacé par l'autonomie. L'autonomie est finalement une domination sans sujet. Que propose Foucault à l'enseignant? Quelle va être la bonne méthode?
Alors, moi, je pense, mais alors là, pour le coup, c'est plus Foucault qui parle, c'est moi. Je pense que si Foucault n'a pas parlé d'éducation, alors que tout laissait entendre qu'il devait, enfin, qu'il allait produire quelque chose sur l'école et sur l'éducation scolaire, c'est justement parce que la question de l'éducation, qui pourtant était au centre de son travail, le mettait extrêmement mal à l'aise. Parce que Foucault, effectivement, dénonce l'autonomie comme suprême assujettissement, hein, et l'éducation, notre éducation, comme suprême assujettissement. Alors, qu'est-ce qu'il propose à la place? Alors, bon, de manière extrêmement ténue, on trouve dans les derniers ouvrages de Foucault, les tomes 2 et 3 de son Histoire de la sexualité, une éducation au souci de soi, une éducation permanente par laquelle l'individu se remettrait perpétuellement en cause, enfin se construirait dans une déconstruction perpétuelle de lui-même, extrêmement flou à mon avis, et en tous les cas, évidemment, pas du tout institutionnalisable. Je pense que Foucault n'avait rien à proposer. Foucault est un déconstructeur, il ne se positionne pas du tout dans une logique de construction, à la différence de Kant. C'est quelqu'un qui a mis l'école en creux, mais qui l'a mis quand même à l'épreuve. Mais ça n'est pas du tout quelqu'un qui pourrait substituer à cette école une autre école. D'ailleurs, dans une perspective foucauldienne, je ne vois pas comment une institution, quelle qu'elle soit, pourrait ne pas être une institution de contention et d'assujettissement. Toute institution est pour Foucault un lieu de contrainte aboutissant à cette éducation des corps dociles. Mais ce qui est très caractéristique, c'est que l'éducation moderne pour Foucault est beaucoup plus, c'est surtout ça que j'ai essayé, à quoi j'ai essayé de vous rendre sensible, est beaucoup plus efficace dans sa douceur, si je puis dire, que ne l'était évidemment l'éducation violente et archaïque des périodes antérieures.
J'aurais voulu savoir, dans cette perspective, comment Foucault définissait la loi. Est-ce que c'est un concept auquel, fatalement, il devait forcément s'affronter, puisque la loi est normative, donc comment lui la définissait?
La loi positive, vous voulez dire?
La loi du commun dénominateur.
Oui. Alors, la loi, pour Foucault, fait partie de ces émergences discursives qui apparaissent à un moment de l'histoire, mais qui sont gouvernées toujours par des configurations souterraines. Hein. Foucault s'est beaucoup plus intéressé aux lois du discours scientifique, mais la loi positive juridique, pour lui, avait exactement le même statut. Toute règle, toute norme, toute loi, tout processus discursif apparent est souterrainement gouverné, configuré par des modes, des structures, hein, il y a une dimension structuraliste chez Foucault incontestablement, des structures cachées qui sont d'autant plus efficaces, bien entendu, qu'elles sont cachées, ces structures, et qu'elles doivent le rester. Et en quelque sorte, vous voyez, Foucault, c'est un enfant de Marx, de Nietzsche et de Freud, hein, vraiment. Du reste, il reconnaît ces trois paternités. Ces structures doivent rester cachées pour fonctionner, comme l'inconscient doit. Il y a une dimension de l'inconscient qui, par définition, ne peut pas émerger à la conscience. Enfin, une partie qui peut émerger à la conscience, une partie qui ne peut pas émerger à la conscience, en tout cas qui ne peut pas émerger à la conscience sans produire des effets de remise en cause, de déconstruction et de reconstruction. Pour Foucault, la loi a exactement le même statut que la règle. ou que la norme.
Je suis pédopsychiatre et je me rends dans les écoles pour accompagner mes petits patients. Et la loi de 2005 sur le handicap a fait beaucoup bouger les frontières. Et moi, votre intervention m'aide énormément justement à me décoller un petit peu de mes ancrages et à entendre cette question de l'insu. De l'insu et de l'inconscient qui se manifeste notamment chez les enfants décrocheurs. Et je pense que, il me semble que la pensée de Foucault peut nous aider à, dans les écoles de la deuxième chance, par exemple. Parce qu'en parallèle, je reçois aussi des adultes et j'ai en supervision des enseignants dans des écoles de la deuxième chance. Donc qui mènent d'une manière plus ou moins lucide, plus ou moins consciente, en parallèle avec ce qu'ils ont à défendre, avec ce que tous les enseignants aussi de l'éducation nationale ont à défendre actuellement de leur statut, de leur identité, au travers des multiples violences auxquelles ils sont soumis. Il me semble que ce que vous nous dites là, ce que vous nous rapportez de Foucault est quand même une grande bouffée d'air frais. Et à propos de Freud, il a écrit qu'il y a trois métiers impossibles. Ils sont enseignés, gouvernés et psychanalysés.
Oui, quand je dis que je ne suis pas foucaldienne, ça ne veut pas dire, j'espère que vous l'aurez compris, que j'accorde pas une très grande importance au travail de Michel Foucault. Très, très grande importance. Je pense que ça a été un des philosophes vraiment essentiels de 20e siècle, certainement avec Deleuze, mais dans un cas comme dans l'autre, ce sont deux déconstructeurs, ce sont deux postmodernes. Bon, ceci étant, je pense qu'on ne fabrique pas effectivement une école ou une éducation à partir de ce que dit Foucault, mais en revanche, ça permet de penser l'école. Effectivement, c'est un outil pour penser l'éducation, pour penser l'école, et en particulier pour penser à cette dimension qui, c'est vrai, n'apparaît pas aux éducateurs, et heureusement, y compris à moi qui suis enseignante aussi, et pas seulement chercheur, c'est la dimension la contention, le chapitre de contention qu'il y a dans l'éducation. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça que Foucault a mis à nu. Donc oui, je ne suis pas étonnée que, compte tenu de votre profession, vous puissiez utiliser Foucault. Mais je vous invite tous à lire, pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, les ouvrages qui sont tous essentiels de Foucault, et en particulier celui dans lequel j'ai beaucoup puisé aujourd'hui, « Surveiller et punir », mais aussi « L'histoire de la folie à l'âge classique », il y a une réédition 72, le premier tome de La volonté de savoir, qui est vraiment remarquable, et puis L'archéologie du savoir et les mots et les choses, paru en 66 et 69, qui montrent de manière très... qui sont peut-être des ouvrages un peu plus philosophiques, enfin, traditionnellement philosophiques, mais qui montrent de manière très, très radicale, très, très brutale, comme le fait Foucault. Enfin, vraiment, c'est un penseur du scalpel. Très brutal, comment fonctionne sa démarche scientifique.
C'est la dernière question maintenant.
Bonjour, j'aimerais savoir comment, à partir des analyses de Michel Foucault, parce que vous dites qu'il n'a pas construit grand-chose, en revanche, il a enseigné toute sa vie.
Et non, je n'ai pas dit ça.
Il a eu en tout cas, il a enseigné énormément, donc ça s'est posé dans sa pratique, le problème.
Il a construit la déconstruction.
Même s'il ne propose pas de manière de faire, disons que lui a fait avec ces problèmes-là toute sa vie, et notamment dans deux expériences qui sont un peu particulières, qui sont les cours au Collège de France et Vincennes. Et j'aimerais savoir comment vous... par exemple, sur la disposition des corps dans une salle, Ici, tout est fixé, il y a une sorte de hauteur, l'orateur est en bas, et nous écoutons ici, mais il y a d'autres dispositions scéniques, décors, qui ont pu être mis en place à Vincennes dans d'autres écoles, qui ont été expérimentés, disons, à un certain moment, et qui vous ressurgissent à divers moments. Et au Collège de France, Foucault aussi avait, tout le long de ses cours, il a eu un problème avec cette... Il voulait faire un petit séminaire pour parler davantage avec les gens. Il s'est toujours plaint du fait que les gens ne posaient pas de questions, il y a que trop de monde, etc. Je ne sais pas comment vous interprétez cette manière que Foucault a eu à faire avec, malgré tout, le problème de l'éducation toute sa vie. Et comment, dans sa pratique pédagogique, on peut voir des tentatives de construire, parce qu'il est évident qu'il n'allait pas s'ériger en professeur pour dire comment il faut enseigner, mais lui, en revanche, a tenté des choses. Et peut-être que si vous avez été élève de Foucault, vous savez quelle est la différence entre un cours de Foucault et un cours de quelqu'un d'autre qui n'avait pas écrit ce que Foucault a écrit sur l'école, par exemple.
Alors, je pense que je vais énormément vous décevoir. Parce que, alors Vincennes, je ne sais pas, hein, j'étais pas au cours de Vincennes, je ne suis pas si âgée. En revanche, j'ai suivi les cours de Foucault pendant 4 ans au Collège de France. J'ai rarement vu des cours magistrales, aussi magistrales que le cours de Foucault. Vraiment, Foucault était un enseignant ultra traditionnaliste. Ses conversations avec les étudiants, je ne sais pas quand il les menait, mais certainement pas en cours. Il n'y avait aucun échange pratiquement avec la salle, ou fort peu en tout cas. D'ailleurs, je dois dire un peu, j'ai suivi les cours de Barthes aussi, c'était la même chose. Deleuze, c'était différent, parce que Deleuze, il était effectivement à Vincennes, dans des petites salles. Bon, effectivement, on intervenait très couramment. Non, enfin franchement, moi ce que j'ai vu des cours de Foucault, c'est un monsieur qui lisait un papier et qui du reste ne regardait pratiquement jamais la salle, hein, il avait l'œil rivé. Alors bon, je sais que ça va certainement vous décevoir, mais non, je n'ai pas du tout vu un Foucault pédagogue. En revanche, immense philosophe, oui, des cours ultra préparés, des cours qui étaient d'une richesse très grande, qui étaient de véritables encyclopédies. Foucault passait la moitié de sa vie à la Bibliothèque nationale, et ses cours reflétaient tout à fait ça. Mais ça n'était pas du tout... c'était des cours ex cathedra, vraiment, vraiment, comme j'en ai d'ailleurs rarement vu à ce point. Maintenant, à Vincennes, forcément, il avait une autre pratique, mais là, je n'ai pas assisté du tout. Mais de toute façon, je pense que Foucault était très, très dérangé par ces questions-là. Et je ne suis pas persuadée... Bon, bien sûr, on ne peut pas préjuger de ce qu'il aurait fait. Sa disparition a été prématurée et brutale. Mais je pense qu'il... Personnellement, j'ai l'intime conviction qu'il ne se serait jamais exprimé sur ces questions. Si ce n'est très marginalement. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, mais je vous remercie en tout cas de votre attention.